Bonjour tout le monde, frères et sœurs. Bon, on va faire une petite réflexion, un petit partage. Nous sommes dans les temps d'avant, né? Et donc on fait les haltes de l'avant. Bon, vous me connaissez bien sûr, non? Je suis le père Badasser, je travaille ici dans les 7 paroisses. Et donc maintenant, on va faire ce petit partage pour bien préparer, pour bien rentrer dans ce temps de l'avant. Bon, frères et sœurs, nous vivons le temps de l'avant, un temps d'attente confiante, d'accueil de la nouveauté et de le renouveau de la foi. Cette période doit être vécue dans notre quotidien. Ça, c'est la première chose qu'on doit retenir, que l'avant, on doit vivre dans notre vie de tous les jours. Elle ne peut pas se réduire à une pratique religieuse, seulement liturgique, seulement dans l'Église. Parce qu'en fait, la liturgie doit toucher dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne. La liturgie doit guider nos vies, impliquer notre vie quotidienne. L'avant nous invite ainsi à vivre notre quotidien à la lumière de ce contenu. Et le contenu de l'avant, c'est être éveillé, attentif et plein d'espoir, parce que le Seigneur vient. Notre proposition ici est de partager durant trois moments, ce sera trois moments, celui-ci, les samedis prochains et les derniers, que nous appelons de l'art de l'avant. Une petite réflexion qui peut nous aider à bien vivre cette période dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi nous avons choisi trois personnages importants dans l'Écriture sainte. Et ces trois personnages nous aideront dans notre chemin. Ces personnages sont la Vierge Marie, que en fait c'est une figure centrale de ce temps, Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste. Chacun d'eux a un rôle et une attitude très, très, très importante qui peuvent nous aider dans ce temps. Cependant, avant de contempler la Vierge Marie, la Mère de Jésus, voyons ce que signifie l'avant. Considérons l'avant comme un pas sur le chemin vers la rencontre définitive avec Jésus. Donc on va, dans ce premier temps, voir qu'est-ce que signifie l'avant. Et on propose de réfléchir l'avant comme un pas dans un chemin. On fait petit, petit, petit pas jusqu'à y arriver. Bon, les pas. En fait, la marche est la marque du peuple chrétien. La marche, le chemin, c'est notre marque. Je pense même qu'elle peut être un symbole, un horizon qui nous rappelle notre vocation à ne pas s'accommoder et puis de ne pas penser que l'histoire est finie. Donc là, c'est une chose vraiment importante de se percevoir sur le chemin. Nous sommes originalement le peuple du chemin, le peuple de la marche. Celui-ci est dans notre ADN. La marche, le chemin, est dans notre identité de chrétien. Les premiers chrétiens étaient reconnus comme le peuple du chemin. Je ne sais pas si vous avez cette conscience-là, mais les premiers chrétiens étaient reconnus comme le peuple qui marche. Jésus lui-même se révèle comme le chemin, là dans l'Évangile de Saint Jean, le chapitre 14, verset 6. Jésus s'identifie, il a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Voilà pourquoi l'immobilité est tout près ou encore la célèbre frase de « On fait toujours comme ça ». Ne marche pas cette chose-là avec le peuple chrétien. Ce truc de dire « On a fait toujours comme ça, oh, la vie c'est fini », ça ne colle pas avec nous, avec l'Église, avec chacun et chacune de nous. Le mouvement, la dynamique est notre identité. Pas de croiser les bras et dire « Ouais, c'est fini ». Non, nous sommes sur le chemin. Dans ce sens, l'avant est en même temps une manière d'être dans le chemin, mais aussi une étape dans le parcours de notre vie. Et là se déroule, fortifiant-nous, une identité d'attente, une identité d'être un peuple éveillé, prêt, debout. Les chrétiens, c'est le peuple qui doit être toujours debout. Mais aussi, nous montrer que le chemin est toujours ouvert, que nous ne sommes pas à la fin. La vie est là et on doit marcher. Devant ce constat, des questions se posent. Quelle est l'importance de l'avant dans ma vie chrétienne de tous les jours? Parce que j'avais dit que c'était une marque de notre identité, donc il doit toucher notre vie de tous les jours. Donc, quelle importance de l'avant dans ma vie chrétienne de tous les jours? Est-ce que l'avant est seulement un temps différent dans la liturgie catholique? C'est l'année liturgique, c'est maintenant. La réflexion est sur l'évangile de Luc. On utilise les vêtements violets. On ne chante pas les Gloria. Mais l'avant, c'est seulement ça, un temps différent dans la liturgie catholique? Quelles sont les implications que ce temps-là a dans nos vies de tous les jours? Quelles sont les implications que le temps de l'avant, qui on prie, qui on vivre dans la liturgie catholique, a dans notre vie de tous les jours? Parce que la liturgie doit toucher notre vie quotidienne, concrète. Ce n'est pas seulement venir ici et prier, et c'est tout. Donc, l'avant, c'est un temps pour l'éveil. L'éveil. Les mots et les expressions nous invitent à être éveillés, à être ouverts, à être attentifs. Il tente d'attirer l'attention de chacun de nous sur quelque chose de grand qui est sur le point de se reproduire. Quelque chose de grand va arriver. Et ce temps-là nous met dans cette dynamique-là. C'est pour cela que c'est important d'être éveillé. Le moment est venu d'accomplir la promesse du bonheur. Et tout le monde se demande, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Ah, je voudrais être heureux. Je voudrais le bonheur. Et le bonheur vient. L'amour dont nous avons rêvé, l'amour qui nous met en mouvement, nous sera donné de manière intense et débordante. Et notre rédemption attendra son apogée, sa conclusion. C'est là le premier ton, dans la crèche. L'amour vient. L'année liturgique commence donc en remplissant nos cœurs d'espérance et en aiguisant notre regard vers un horizon plus large et plus proche, parce qu'il vient. Il est donc temps d'être éveillé, car si nous sommes négligents, et parfois nous sommes, nous perdons la grâce qui nous est offerte. J'aime beaucoup l'image d'une... J'ai partagé avec le néophyta. Oh, oui. C'est d'une... Comment s'appelle ce truc qu'on met pendant la pluie, afin que la pluie ne nous...
Capuchon.
Une cap...
Capuchon.
Une capuchon. Bon. Je pense que parfois, j'aime beaucoup cette image-là parce que Dieu, en fait, il nous donne toujours sa grâce de façon abondante. Mais qu'est-ce qu'on fait? On met la cape au chão. Et la grâce tombe et passe et ne nous touche pas. Mais elle nous est donnée tous les jours et de façon abondante. Donc il faut, dans ce temps de l'Avent, de jeter la cape afin qu'on puisse accueillir cet amour qui nous est donné de façon transbordante. Donc, c'est la première attitude dans ce temps-là, d'être attentif, les yeux ouverts, debout. Et ça doit être dans notre vie, pas seulement dans notre liturgie. Avoir la certitude de la vie qu'il peut arriver à tout moment, parce que Jésus va venir, mais on ne sait pas quand. Même lui, il a dit à ses apôtres que cette réponse-là, seulement le Père a, le jour qu'il reviendra. Mais on sait qu'il va venir. Et Jésus dit dans l'évangile de Saint-Luc et de Saint-Matthieu, « Heureux le serviteur que le Seigneur trouve debout à son retour, que ce soit pendant le jour ou à l'aube, heureux le serviteur. » Voilà, c'est notre attitude dans ce temps-là, parce qu'on sait que le Seigneur va venir. Il a dit dans l'évangile que heureux, c'est le serviteur que le Seigneur rencontre debout quand il reviendra. Mais je pense, frère et sœur, que cette expérience de accueillir quelqu'un ou quelle situation qui n'est pas tout à fait prêt, chacun et chacune de nous ont déjà vécu de cette façon. Parce que je pense aussi que beaucoup d'entre nous a déjà accueilli un ami, un parent, un familier qui était arrivé et qui n'était pas prêt à accueillir, mais de toute façon, on a se débrouillé pour bien accueillir. Et voilà, c'est peut-être cette dynamique-là que l'Avent nous demande d'assurer, être attentif. On ne sait pas quand, mais il va venir. Et donc, c'est la première chose. Et en fait, dans la liturgie, on vive notre ce temps-là en préparation pour la fête de Noël, qui est en fait la première venue de Jésus. Il est venu comme un de nous. Et donc, l'Avent nous demande d'être là, debout, prêt à accueillir. Voilà le temps de l'Avent. C'est le temps de la certitude. Il vient. Mais aussi, le temps de l'attente. Nous ne savons pas quand il vient. C'est des attitudes qui doivent remplir notre cœur pendant ce temps de préparation à la fête de Noël. La certitude et l'attente. Il vient, mais ce n'est pas quand. Bon, comme je ne sais pas quand, je vais être éveillé. Je vais être debout. Parce que quand il est arrivé, quand il arrivera, je suis là. Viens, Seigneur, tu es bienvenu. Donc, c'est ça qui implique de jeter la cape au chão afin que la grâce puisse pénétrer en nous. C'est pourquoi l'important. Or, le temps de l'Avent est aussi celui de la préparation de Noël. Il s'agit de la naissance. Parce que dans la fête de Noël, le petit Jésus naît. Donc c'est un temps qui nous prépare pour la naissance. Et la question qui se pose là, c'est de préparer Noël. N'est-ce pas exactement préparer une naissance? Donc nous sommes dans un temps de préparer une naissance. Mais Jésus, historiquement, il est déjà né. mais il demande de naître toujours dans notre cœur. Et donc voilà, c'est le sens de Noël aussi. Préparer notre cœur pour une naissance. Et donc c'est le temps de bien organiser, de bien nettoyer notre cœur. Une personne qui nous aide dans ce processus est la Vierge Marie, que on va contempler maintenant. C'est vraiment une figure très, très, très importante dans ce temps de l'Avent, de ce temps qu'on prépare pour accueillir Jésus qui vient. Le temps de l'Avent est un peu, j'ai déjà dit, mais je répète, afin que vraiment puisse pénétrer dans notre cœur. C'est un temps d'attente, d'espérance, de préparation spirituelle en vue de la naissance du Christ. Parmi les figures centrales de ce temps liturgique, Marie, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, occupe une place privilégiée. Son importance et son rôle dans les mystères de l'Avent se manifestent à travers plusieurs dimensions. Et sont cette dimension-là que je vais partager avec vous, afin qu'on puisse, pendant ce temps d'Avent, réfléchir sur ces aspects-là dans notre vie chrétienne de tous les jours. Donc, le rôle de la Vierge Marie dans les mystères de l'Avent se manifeste à travers plusieurs dimensions. En explorant son élection divine, parce qu'on sait que la Vierge Marie elle était élue pour être la mère de Jésus. Sa foi exemplaire, oui, on sait que Marie, c'est la femme qui dit « Oui, Seigneur, faites-moi ». Sa maternité spirituelle, son modèle d'attente et d'une attente active et sa source d'espérance, nous comprendrons mieux son rôle unique dans cette saison liturgique ou dans ce temps liturgique. Donc voilà, Marie, l'élue de Dieu. C'est seulement des petites réflexions que je vous propose pour vous aider dans votre vie. Donc, Marie, élue de Dieu. Marie est choisie par Dieu par une mission unique. Ça, en fait, on peut faire beaucoup de réflexions sur cette affirmation-là. Parce qu'en fait, on peut réfléchir sur notre vocation. Quelle est notre vocation en tant que baptisé? Et en tant que baptisé, nous sommes appelés, mais nous sommes aussi envoyés. Donc, quelle est notre mission dans ce monde-là? Dans ce monde-là que on vive. Donc, Marie est choisie par Dieu par une mission unique. Elle est appelée, mais dans son appel, elle a déjà reçu une mission, comme chacun et chacune de vous, baptisé chrétien, comme moi aussi. Et la mission de Marie, c'est de devenir la mère du Sauveur. Et on voit ça dans l'Annonciation, dans l'Évangile de Saint-Luc, no chapitre 1, versos 26 à 38. Là, on voit l'ange Gabriel qui vient et parle avec Marie. Donc, l'Annonciation, l'Église médite particulièrement au cours de l'Avent. Voilà, c'est dans ce temps-là qu'on peut réfléchir, on peut approfondir dans ce mystère d'un Dieu qui vient vers nous et qui vient et qui veut devenir un comme nous. Donc, dans l'Avent, met en lumière l'initiative divine dans les mystères de l'incarnation. Et le Verbe de Dieu se fait chair. Donc, c'est un élément très important dans notre foi et que pendant ce temps-là, on peut approfondir dans notre vie. Par son oui à l'ange Gabriel, Marie permet à Dieu de prendre chair et d'entrer dans l'histoire humaine. Voilà, c'est en fait un truc très, très, très immense. Né? C'est le mystère même de Dieu. Il vient à Marie par l'ange Gabriel et dit qu'il voudrait devenir un comme nous. Et je pense que c'est la vérité unique du christianisme. Parce que c'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui s'anticipe. Ce n'est pas le contraire. Le contraire dans d'autres expériences religieuses, c'est toujours l'homme qui cherche à Dieu. Mais maintenant, c'est Dieu qui cherche l'homme. Et Dieu vient. Et Marie, elle a ce rôle-là. Ce choix de Dieu par rapport à Marie souligne à la fois la grâce exceptionnelle accordée à Marie et son humilité. On est en train, en fait, de vivre la novena de Immaculée Conception, n'est-ce pas, ici dans notre paroisse. Et les mystères de l'Immaculée Conception, c'est exactement cela, parce que Dieu a élu Marie pour devenir la mère de son fils. Ça veut dire que Marie était toujours, né, comment je peux dire, gardée du péché. Donc Dieu a bien préparé Marie pour cette mission-là. Donc elle connaît que tout vient de Dieu. Et on peut voir ça dans l'Évangile de Saint-Luc 1,49. Marie dit, le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Et depuis, toujours dans sa vie. Pour l'Église, ce passage est un appel puissant de la prérogative divine dans le plan du salut. Dans la vie des chrétiens, il invite à contempler la vocation personnelle de chacun et chacune, ou que chacun et chacune reçoit de Dieu et à répondre avec générosité comme Marie. Voilà, c'est un premier élément que on peut contempler dans la Vierge Marie qui nous aide à bien vivre ce temps-là. C'est comprendre notre vocation et notre mission. Dieu nous appelle et nous envoie. L'autre élément, c'est la foi exemplaire de Marie, parce qu'en fait, Marie, c'est un exemple de quelqu'un qui a bien vécu sa foi. Marie est un modèle de foi pour toute l'humanité. Lors de l'Annonciation, on est dans ces mystères-là, dans les mystères de l'Annonciation et de l'incarnation du Verbe. Elle accueille avec confiance une parole qui dépasse l'entendement humain. Oui, Dieu voudrait devenir un homme. Il parle avec une femme, par intermédiation de l'ange. Et donc, Marie, devant ces mystères-là, parce qu'en fait, cette parole-là dépasse toute sa vie, mais dépasse notre vie aussi. Mais par contre, la réponse de Marie, né, elle a dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Devant les mystères révélés à elle, elle répond avec la foi. Et donc cette réponse-là révèle uma foi total e um abandon complet a Dieu. Ela ne comprend pas bien, né, e on voit ça dans l'Évangile, quand on lit l'Évangile, né? Mais par contre, ela dit oui, je suis là. Que soit fait selon sa parole. Ela assume, ela accepte la mission qui lui est donnée. Cette attitude de foi est essentielle dans le temps de l'Avent. Où les chrétiens, ou chacun et chacune de nous, nous sommes appelés à répondre. Nous sommes appelés aussi à répondre l'appel de Dieu avec confiance et obéissance, comme Marie. Pour notre Église, Marie est la première croyante. Celle qui montre le chemin de l'adhésion totale à la volonté divine. Voilà, c'est un deuxième élément que Marie nous donne, nous offre pour bien vivre ce temps-là. notre foi. Répondre avec foi. Et une foi qui, comment je peux dire, qui soutienne, ou qui nous appelle, ou qui nous renvoie, né, à l'abandon confiant dans les mains de Dieu. Même que parfois, dans un premier temps, on ne comprend pas. Parce que Marie s'est passée un peu comme ça. Mais comment ça va aller, je ne connais pas des hommes. Et Dieu l'a conduit jusqu'au bout. Et donc, elle nous aide dans ces temps de l'avant à bien approfondir notre foi et notre abandon, confiant dans l'amour de Dieu. Donc, dans la vie de tous les jours, Marie est un exemple vivant de foi et d'action. Oui, parce qu'elle a dit, oui, je crois, je suis là, parce que l'ange l'appelle, né? Mas ela disse aussi, oui, tu peux faire comme tu veux. Je suis prêt. Donc, c'est une foi en action. Leur rappelons, donc ela nous appelle, né, que même dans les moments d'incertitude, Dieu, né, nous, même pendant les moments d'incertitude, de difficulté, des angoisses, né, il faut faire confiance parce que Dieu est là avec nous. E é isso que Maria Aix a vécu dans sa vie. E ela nos offre aussi como um élément pour approfondir ce temps de l'avant. Un troisième élément que on peut relever, c'est Marie, la mère du Sauveur et mère de l'humanité. Donc, Marie que é notre mère. Donc Marie est élue de Dieu, Marie est un exemple de foi, et Marie est aussi notre mère, parce qu'elle est mère du Sauveur de Jésus, mère de Dieu. Marie joue un rôle unique dans les mystères de l'incarnation. Ça c'est vrai, on ne peut pas douter. Elle est la mère du Sauveur. En portant le Christ en soi, en son sein, elle devient la première tabernacle vivant. Parce que Jésus est là. Parfois, on est ici pour faire l'adoration à Jésus qui est dans le tabernacle là. Mais avant tout ça, il était dans le sein de Marie. C'est pour cela qu'elle devient pour nous le premier tabernacle vivant. C'est Marie. Parce qu'en fait, aussi, nous, quand nous recevons la Eucharistie, Jésus est dans chacun de nous aussi. Donc, on est aussi des tabernacles vivants. Et c'est vraiment, je peux dire comme ça, magnifique, si on pouvait, dans notre vie de tous les jours, vraiment être ce tabernacle-là, devant les défis que la vie nous impose. Parfois, on tombe dans une angoisse, que même qui n'est pas chrétien, dit, mais tu n'es pas chrétien, comment est-ce que tu es comme ça? Et Jésus est là, à l'intérieur de chacun et chacune de nous. Bon, mais ça, c'est l'autre sujet. Le oui de Marie permet à Dieu de se faire homme pour sauver l'humanité. C'est pour cela qu'elle est vraiment le premier tabernacle vivant. Dans l'avant, cette dimension maternelle prend une ressonance particulière. Elle invite les fidèles à entrer dans une dynamique d'enfantement spirituel. Voilà, maintenant nous sommes une église qui est enfantée. Chacun de nous a ce sentiment de grandir dans notre cœur. Parce qu'il va venir, il est là déjà, à l'intérieur de chacun de nous et chacune. Préparer le cœur pour accueillir le Christ comme Marie l'a fait. Voilà. Et ça que je pense que c'est vraiment important de traduire dans notre vie quotidienne. Comment on peut vivre une dimension comme ça, comme cela, dans notre vie de tous les jours? Comment on peut manifester qu'il vient, qu'il est prêt, et que pour cela, on est debout, on est éveillé, y en ait aussi dans la joie. Pour l'Église, Marie est la mère de l'humanité rachetée, une médiatrice qui accompagne ses enfants dans leur cheminement vers Dieu. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut voir aussi l'avant comme une marche. Et dans notre vie de tous les jours, elle est une présence maternelle qui veille, console et soutient. Et c'est pour cela que je vois qu'ici, dans notre paroisse, né, tous les jours, il y a beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que notre mère est là. Et elle veille, console, nous soutient. Quatrième élément, c'est que Marie, c'est un modèle d'attente et de préparation. Comment c'est? L'avant est un temps d'attente active. On n'est pas seulement là, assis. Et Marie incarne parfaitement cette attitude. Son cheminement depuis l'Annonciation jusqu'à la naissance de Jésus est une période de préparation pleine d'espérance, humilité et de foi. Elle attend dans la confiance chacun que ce qui a été promis à Dieu. Marie nous enseigne que l'attente de Dieu n'est pas passive. Elle consiste à veiller dans la prière, c'est pour cela qu'on prie pendant ce temps, à se préparer par des actes d'amour, pour cela nous sommes aussi invités, né, à faire attention les uns vers les autres, surtout vers les plus pauvres, et à demeurer disponible à l'action de Dieu. Il est cinquième aspect, il est dernier, que Marie peut nous aider à bien vivre dans ce temps, c'est que Marie, elle est source d'espoir, source d'espérance. Marie est une figure d'espérance par excellence. En elle, les promesses de Dieu s'accomplissent. Voici que la Vierge conservera et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. C'est dans la prophétie d'Isaïe. Son oui ouvre la voie de la rédemption et sa fidélité jusqu'à la croix montre que l'espérance en Dieu ne déçoit jamais. Ça, c'est vraiment une chose importante dans notre vie de tous les jours. Né? Avoir l'espoir. Dieu est là avec nous et il ne déçoit jamais. Dans notre vie de tous les jours, Marie est une source constante d'encouragement à croire en l'avènement du royaume de Dieu. Même au milieu des épreuves et des incertitudes, le royaume de Dieu vient. Elle rappelle que l'espérance chrétienne repose sur la fidélité de Dieu à ses promesses. Et en fait, on sait que Dieu est fiel, est fidèle. En conclusion, frères et sœurs, Marie, par son élection divine, sa foi, sa maternité spirituelle, son modèle d'attente, sa source d'espérance, est un modèle parfait pour vivre ce temps de l'avant. Elle nous montre comment accueillir le Christ dans nos vies avec un cœur ouvert et disponible. Alors, nous préparons à célébrer Noël. Demandons donc à Marie, à Notre-Dame de Victoire, à notre mère, de nous accompagner dans notre chemin spirituel. Comme elle, faisons de ce temps un moment de foi profonde, d'obéissance joyeuse et d'espérance inébranlable. Que Notre-Dame nous aide à dire adieu chaque jour. Voici la servante du Seigneur, que tu m'adivines selon ta parole. Et pour finir, frère Richard, je vous invite à se mettre debout et ensemble prier un Je vous salue, Marie. Afin que notre avant né, puisse porter beaucoup de fruits dans notre vie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
Notre-Dame de Victoire,
priez pour nous.
Un bon temps de l'Avent pour tous.
Merci à vous aussi.
Le samedi prochain, on va voir la Saint-Joseph dans ce temps de l'Avent. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter pour bien vivre ce temps? Merci à tous.